Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nouvelle émission qui n'est pas tout à fait si nouvelle puisque, bah en fait, à la base, c'était des vidéos et en fait, pour tout simplement des raisons de temps et de tout ça, en fait, ben j'ai décidé que ce serait beaucoup plus simple de le faire en podcast. Voilà. Sinon, à part ça, on ne change pas du tout le principe de cette émission, donc qui est toujours mensuel. On va voir donc tout simplement aujourd'hui 10 comics qui sortent en français en ce mois de janvier 2024. Bonne année en retard, hein, voilà, tout ça. Donc, je rappelle toujours que ce n'est pas un top, c'est juste 10 bonnes sorties que j'ai envie de mettre en avant. Et il n'y en a que 10 parce que bah, ma résolution, c'est d'essayer de continuer ce running gag un peu chelou où je dois à chaque fois trouver une nouvelle raison pour justifier pourquoi 10, même si on est en podcast. Car pendant que le futur ne s'annonce guère brillant, sauf si on compte les retombées radioactives, ça brille bien. Nous, on continue à essayer de vivre dans des pages en 2D remplies de bulles. Oui, parce qu'en règle générale, décembre, c'est un mois de sortie plutôt sobre. Car ce qu'on essaye de sortir pour les fêtes, hein, pour que ça se vende bien, en fait, ça sort plutôt en octobre et surtout novembre, hein, histoire d'être bien présent sur les rayonnages, histoire que bah, vous ayez les acheter. Bon, ça, on l'a bien vu hein, cette année. Mais en général, en janvier, on est censé souffler un peu, vous voyez, ça retombe. De mon point de vue, ça n'a pas été le cas hein, ce coup-ci, puisque j'ai l'impression qu'un éditeur en particulier, hein, qui édite du DC Comics, s'en voulait vraiment à mes économies et à l'argent des étrennes. Le mien et celui sans doute de chacun d'entre vous. Pour tout vous dire, en fait, j'ai dû faire des choix qui m'ont fait grand mal hein, pour sélectionner que 10 comics, mais les règles sont les règles, tout aussi mal que ça me fasse de les faire appliquer. D'ailleurs, on va les rappeler un petit peu, ces règles. Donc, tout simplement, on a 10 titres qui vont être sélectionnés, on a 3 titres DC, 3 titres indépendants et 3 titres Marvel, et un titre Joker qui peut être DC, indépendant ou Marvel. Voilà. Merci Pupu. Et bref, commençons.
Dawn of GSA chez Urban Comics.
Bref, vous l'aurez sans doute compris à ce que j'ai déjà dit, hein, je trouve qu'il y a trop de bons titres DC ce mois-ci. Bon, hein, ne nous plaignons pas non plus d'avoir de la qualité, hein, quand même. Ce serait un comble. Mais voilà, je dois choisir entre deux titres de la nouvelle appellation des titres actuels. Dawn of DC, l'aube de DC. Et les deux bah, sont trop bons. Superman ou GSA, ou Justice Society of America. Il m'a fallu trouver une douille pour en disqualifier un, et y a un micro-bout de Night Terrors dans Superman, et c'est pas oufissime, donc on prend la Justice Society of America, abrégée en GSA, même s'il y a aussi 9 autres numéros extraordinaires dans le Superman. Mais non, on va parler du retour de la GSA. Enfin, nom de bon sang de bonsoir, on nous tease le vrai retour de l'équipe depuis plus de 5 ans. Que ce soit dans Death Metal, Doomsday Clock, Dark Crisis, et j'en ai peut-être raté dans ce que j'ai dit. Et heureusement, le retour est meilleur que ce que j'ai cité. Ce retour est dirigé par Geoff Johns, et soyons francs, quand on l'a annoncé, j'étais pas chaud du tout. Je trouve que ça fait longtemps que Johns n'avait pas sorti de bon titre, je trouve qu'il a déjà largement essoré ce qu'il a à dire sur l'équipe, parce qu'il a déjà passé plus d'une décennie dessus. Bref, non, à l'annonce, ça ne m'enchantait pas trop. Et puis, il y a eu Flashpoint Beyond, où j'ai trouvé un Johns enfin en forme sur un titre. Et puis, il y a eu un numéro spécial, The New Golden Age, qui est présent dans ce tome VF, et qui m'a confirmé que Johns était vraiment on fire, et que les pistes en fait très intéressantes lancées dans Flashpoint Beyond allaient continuer dans ce titre. Et puis, la série JSA est annoncée avec une série sœur, Stargirl The Lost Children, avec une flopée de sidekicks de l'âge d'or que l'on créait, hein, et que l'on amène à notre époque, dont notamment une sidekick de Dr. Fate et surtout la fille de Jay Garrick, le premier Flash. Et la série est très bien, joue avec plein de concepts, non, c'était vraiment une bonne surprise. Et d'ailleurs, cette série, elle est dans le tome, en plus des deux premiers numéros de la JSA. Premier numéro dont on va parler. Alors, certes, c'est un peu lent, mais c'est excellemment dessiné, on a du méli-mélos passion-temporel qui joue avec l'histoire d'essai et des pans que j'adore, comme la première Huntress, qui avait été créée comme la fille de Batman et de Catwoman au tout départ. Mais alors, ce n'est pas juste un appel nostalgique du passé, hein. Au contraire, c'est une fusion imaginative du passé et du moderne, qui sait certes faire des clins d'œil aux connoisseurs, tout en donnant toutes les clés et des points de vue modernes pour le nouveau venu. Et pour le connoisseur aussi, parce que bah, le connoisseur, il vit quand même dans la période moderne. Hein. Non, le seul bémol, c'est sans doute que, oui, avoir lu Flashpoint Beyond, et éventuellement la fin de Doomsday Clock, c'est un plus, clairement. Mais ben, voilà, si vous n'avez pas lu Doomsday Clock, vous vous fatiguez pas. Flashpoint Beyond, par contre, ça va être très important. Pour la série de JSA en elle-même. Pas forcément pour les séries qui sont à côté, comme par exemple Stargirl. On est ici sur la suite de ces récits. Et ben, du coup, on a l'événement en fait qui avait fait disparaître les héros de l'âge d'or, Flashpoint. Et on a sa suite, Flashpoint Beyond, qui se retrouve être la base de ce qui ramène ces mêmes héros de l'âge d'or. Ah, je ne peux pas m'empêcher de trouver cela ironiquement poétique. Et je suis emporté, j'en veux plus, et je ne peux que vous conseiller ce titre qui dépote au-delà de mes espérances les plus folles il y a encore un an au moment de son annonce. Et bref, vous n'avez pas fini de m'entendre parler des titres Donoff par ici au fil des mois, vous pouvez me croire. Et au pire, si vous ne me croyez pas, j'ai tout un podcast qui s'appelle D'ici vu d'ailleurs, vous aurez déjà un petit aperçu. 8 milliards de génies chez Panini Comics. Alors, je sens que, en fait, tout simplement, ce passage en mode podcast fait que je parle plus. Je vais essayer de faire court sur certains. Notamment sur 8 milliards de génies, puisque 8 milliards de génies, c'est une des séries que j'avais déjà plébiscité dans le bilan de l'année 2022 sur ma chaîne YouTube. Déjà, vous avez cette vidéo qui vous en parle. Et bah du coup, il est pas très étonnant que de retrouver ce titre ici. Parce que pour être franc, en fait, c'est une petite merveille d'histoire. Et le fait de rester aussi un peu court, c'est justement parce qu'en fait, beaucoup de choses viennent de la surprise et des différents concepts qu'on va trouver dedans. Donc voilà, je vais essayer de faire court justement pour vous garder la surprise. Je vais vous faire un petit pitch. Imaginez que chaque être humain sur Terre, ces 8 milliards de personnes, reçoivent soudainement un génie chacun qui peuvent accomplir un vœu. Alors ça va être un beau bordel, hein, entre les vœux égoïstes de « je veux que machin y m'aime », les vœux du genre que « je veux que mon pays soit le meilleur du monde », les vœux de « je veux un super pouvoir ». Bref, nous allons suivre tout ça, et plus encore, via un point de vue assez intimiste, plutôt de l'intérieur d'un bar, le Lampswick. Le gérant du bar, prévoyant, a de suite souhaité qu'aucun vœu fait à l'extérieur ne puisse toucher son bar ou ce qui s'y trouve. Nous voici donc avec des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui restent en sécurité à l'intérieur pendant que l'humanité teste ses vœux et apprennent parfois à la dure les règles des vœux des génies, ces petits êtres bleus au design assez génial dessiné par Ryan Brown. Les 8 numéros de la série nous montrent une progression en 8, justement. Hein, on a les 8 premières minutes, les 8 premières heures, les 8 premiers jours, les 8 premières semaines, bref. Il y avait 8 numéros et chacun des numéros c'était bah, les 8 premières minutes, les 8 premières heures et tout ça. C'est trop bien quoi. C'est une excellente petite série indépendante en un seul tome qui est donc signé Charles Soule et donc Ryan Brown, qui n'a finalement de limite que l'imagination, où la Terre peut devenir carrée ou une boule de glace, et où enfin il peut être bon que l'humanité n'ait pas exactement ce qu'elle veut. Bref, je m'arrête là parce que, encore une fois, je vous le dis, j'ai peur de trop vous spoiler si je vais plus loin. Mais allez lire 8 milliards de génies, c'est supra top. Les Gardiens de la Galaxie, tome 1, La Chute de Groot, chez Panini Comics. En comics, les Gardiens de la Galaxie ont connu une petite pause de publication, notamment après le dernier numéro du court run d'Ali Wing sur les personnages qui datent donc du coup de fin 2021. Alors, ils ont bien fait hein, 2 ou 3 apparitions après, mais c'est finalement des courts passages et jamais en étant le centre de l'attention. C'est au milieu de l'année 2023 que le premier numéro de cette nouvelle série est arrivé pour dynamiter un peu le tout. C'est donc le début d'un nouveau run qui s'annonce prometteur sur la durée et qui est lancé par un duo de scénaristes qui enchaînent les bonnes séries en ce moment, Colin Kelly et Jackson Lansing. Avec Kevin Walker au dessin, le titre prend en fait des allures de western dans l'espace, et c'est très très bon. Alors attention, hein, western dans l'espace, certes, mais western un peu désenchanté. Hein, si je devais faire une comparaison, ça fait un peu plus Firefly, la série télé de Joss Whedon. Je veux dire, les personnages sont constamment sur la fuite, hein, à essayer de sauver ce qu'ils peuvent. Et même quand ils arrivent à sauver la situation, c'est jamais une victoire complète, mais une victoire qui retarde la défaite finale qui semble être inéluctable. Bref, c'est une victoire à la Pyrrhus. Car nos héros sont sur la brèche à essayer de sauver le plus de personnes possible d'un phénomène que l'on appelle le Grootfall, à savoir des bouts d'un gigantesque Groot dans l'espace qui envoie des spores de lui-même sur toutes les planètes de la galaxie dans le but de les coloniser hyper rapidement et que toute la faune et flore locale soit elle-même Groot. Car oui, le gentil arbre semble être redevenu plutôt une menace, chose qu'il était d'ailleurs lors de sa toute première apparition il y a de cela fort longtemps. Alors, simple retour en arrière ou chose nouvelle ? Eh bien, chose plutôt nouvelle, car déjà, il n'est pas clair de savoir si Groot contrôle cet état de fait ou si c'est en dehors de sa volonté. Et surtout, il a des amis qui cherchent à limiter les dégâts et, si possible, à trouver une solution. Mais les 10 amis ne sont pas indemnes, hein. On les récupère alors qu'ils essayent déjà d'arrêter ça depuis un petit moment. Et ça leur a pas fait que du bien, hein. Mantis est plutôt instable sur ses différentes personnalités, Gamora a un grand penchant pour la picole, et Rocket Raccoon... Bon, comme c'est le dernier numéro du tome VF, je vous dis pas, mais c'était sympa à lire. Bref, c'est une proposition très sympathique et qui m'a beaucoup emballé, donc recommandée dans cette émission, bien sûr. Flash Infinite, tome 4, chez Urban Comics. Normalement, vous avez déjà dû m'entendre parler en long de ce titre que je loue depuis son début en 2022. Et ce, que ce soit en vidéo sur ma chaîne ou même dans d'autres podcasts comme Comics Discovery ou encore les GG Comics. C'est sans aucun doute mon comics préféré de ces dernières années pour son ambiance fun et aventureuse, une très bonne gestion des différents arcs et aussi un peu, il me faut l'avouer, car c'est un de mes personnages chouchou que l'on retrouve ici dans une forme olympique. Wally West est le troisième Flash titulaire, ancien sidekick du second Flash, Barry Allen, et Flash de plein pied quand même depuis la fin des années 80, mine de rien. Malheureusement, les années 2010 ont été très peu tendres avec lui, et c'est un euphémisme puisque le personnage a carrément été effacé de la réalité comme beaucoup d'autres pendant 5-6 ans. Heureusement, on commence à récupérer ces personnages et toutes les possibilités scénaristiques, relationnelles et tout ça qui les accompagnent, parce que c'est ça le plus important. Et en plus, quand ce retour s'effectue avec une bonne équipe créative, c'est là qu'on est heureux. Et bon sang que l'équipe créative est bonne. Notamment le scénariste Jeremy Adams, qui a réussi à produire la meilleure itération d'un regroupement de Flash depuis Mark Waid. Qui reste le taulier hein, en ce qui concerne Flash. Hein. Donc, en fait, voilà, il a atteint ce qu'on considère encore comme la limite indépassable. C'est pas mal pour son premier boulot dans le monde des comics. Alors, il n'y a malheureusement pas de dessinateur attitré, mais on retrouve quand même de bons dessinateurs comme Roger Cruz, Serge Acuna, Tom Derenick. Et bref, dans ce quatrième et dernier tome, Jeremy Adams boucle du mieux qu'il peut ses plans pour Flash, alias le bolide écarlate. Parce qu'on lui a dit « Ouais, d'accord, t'as des plans sur plusieurs années, mais voilà, on va filer le titre à quelqu'un d'autre. » Ok, d'accord. Bon, bah, attendez, je vais quand même me faire plaisir. Hein. Déjà, il se permet de remettre en avant bon nombre de personnages déjà introduits dans les numéros précédents. Dans un grand arc catastrophe, la One Minute War, une guerre produite par une race extraterrestre qui a ralenti le temps pour tout le monde sur Terre, faisant que personne ne peut lutter contre l'invasion, parce qu'eux, ils la font en super vitesse, bah, sauf tous ceux qui sont investis de la force Velos. C'est la puissance mystérieuse qui donne aux bolides de l'univers DC leur super vitesse. Alors, c'est donc un événement très cool hein, qui a lieu, qui, en plus, juste réenglobe, en fait, tout ce qu'a fait Jeremy Adams avant, qui fait que, du coup, rien n'est gratuit. Tout se recoupe à la fin, c'est très très joli. Mais, heureusement, en plus, la fin de ce run ne se limite pas qu'à cette histoire de destruction, hein, même si déjà en soi, je vous l'aurais recommandé pour cette histoire. Déjà, la One Minute War, je vous l'aurais recommandé. Mais le run de Jeremy Adams sur Flash est aussi marqué par un grand attachement aux relations entre les personnages, et c'est sur ces derniers points que les tout derniers numéros, les numéros finaux, vont se concentrer. Que ce soit une histoire à travers les dimensions pour les petits jeunes bolides, la naissance d'un nouvel enfant dans la famille Flash, ou encore un combat intense contre la néo-déesse Granny Goodness, une séide de Darkseid que l'on pourrait traduire en Mamie Bonheur. Je vous laisse imaginer que, bien sûr, il y a pas mal d'ironie dans ce nom. Et aussi la très bonne petite histoire finale où l'on suit des vilains qui parlent de notre héros et comment celui-ci est vu par ses adversaires, une excellente représentation de ce qu'est Flash et surtout Wally West, et de pourquoi il est si différent des autres super-héros. Bref, un immanquable à mon sens, qui sait varier les tons passant de la comédie à l'aventure la plus sérieuse en un quart de seconde, et qui reste humblement l'un de mes coups de cœur ultimes de ces dernières années. It's Lonely at the Center of the Earth par iComics. Dans l'émission de septembre dernier, hein, donc qui existait au format vidéo, je vous conseillais Rain, une adaptation d'une nouvelle de l'auteur Joe Hill qui était dessinée par Zoe Sogood. Ici, je vous conseille une autre œuvre de la jeune autrice nommée It's Lonely at the Center of the Earth, soit traduit à la truelle dans la langue de Jules, c'est solitaire au centre de la Terre. Ici, nous sommes dans un roman graphique, hein, un vrai de vrai, hein, sorti en une seule fois, voilà, tout ce qu'il faut. Et en plus, un roman graphique autobiographique, puisque Zoe Sorogood nous fait ici partager 6 mois de sa propre vie. Et son quotidien, où elle essaye d'affronter les affres de la création, la difficulté d'en faire un métier, les problèmes de santé mentale que cela peut amener, et forcément, moi, dépressif qui se remet tout doucement d'un burn-out et qui crée des trucs divers depuis qu'il a 12 ans, et ça me parle. Mais en plus, Zoe Sorogood, j'imagine contrairement à moi, elle est douée. Il y a énormément d'idées visuelles très bonnes dans ces quelques 208 pages où les émotions traversées sont finalement hyper bien retranscrites, hein, et transmises aussi au lecteur. Et c'est d'autant plus ironique de la voir être sujette au syndrome de l'imposteur, par exemple, parce que non, clairement pas, je vois le résultat. Mais malheureusement, c'est le lot de beaucoup de personnes dans le domaine de la création. Malheureusement. Alors, c'est clairement pas un récit feel-good, hein, loin de là même. Mais c'est un très beau portrait de la lutte contre la dépression, alors même que sa carrière professionnelle semble être au beau fixe, et en fait au moment même où elle commence à avoir du succès. Et moi, ça m'a touché, forcément. Mais je suis pas le seul, hein. C'est un récit qui est pas mal encensé par plein de gens, et c'est même pour cela que nous avons le droit à cette traduction française chez iComics, parce que le genre de l'autobiographie ou la biographie américaine en comics, hein, ne passe pas si souvent les frontières en général. Bref, non seulement donc c'est un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est bien de l'aider un petit peu, et en plus c'est supra cool, donc en plus ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, lisez-le, quoi. Marvel Comics numéro 1, même s'il y a un petit 2 entre parenthèses, chez Panini Comics. Bon, on va parler d'un format qui est l'héritier le plus proche de ce qui a été le format prédominant du comics américain, par chez nous, pendant au moins 60 ans, je pense, au bas mot, hein, à savoir le kiosque presse. Alors, le format du kiosque est aujourd'hui pratiquement mort, et je trouve ça dommage car il avait un avantage indéniable, celui de suivre plusieurs séries dans la même publication. Ainsi, vous pouviez acheter un titre et avoir plusieurs équipes créatives et plusieurs personnages, plusieurs séries à l'intérieur. Mais c'est parfait pour se faire assez rapidement une idée de ce qui se fait en ce moment dans un univers donné et de voir plusieurs propositions pour choisir finalement celle qui nous semble être la meilleure à suivre. Peut-être faire des découvertes. C'est quelque chose auquel je suis très attaché, découvrir des choses. Le kiosque est aujourd'hui officiellement mort depuis quelques temps et la fin de Batman bimestriel. Mais Panini continue de publier des soft covers, donc des revues à couverture souple, avec les nouveautés. En tout cas, certaines nouveautés choisies. On ne peut pas appeler officiellement cela du kiosque, parce que les puristes me tomberaient dessus, parce que c'est pas vendu justement dans les kiosques, ou en tout cas pas dans tous, enfin en tout cas ça passe pas par le même réseau. Mais pour ce qui m'intéresse, à savoir donc le panaché de séries, la découverte, tout ça, moi je retrouve ce qui m'intéresse. Ce qui fait la force d'une offre kiosque, en général, c'est plusieurs facteurs. Le prix, la périodicité et la qualité des séries. Et je pense que pour le titre dont on va parler, à savoir la relance du softcover Marvel Comics, on tient un bon titre du genre. Bon, au niveau du prix, je n'en parle pas. C'est trop cher, mais comme tout est trop cher, hein, c'est le propre d'une période d'inflation galopante, hein, quoi qu'en disent les gens qui nous sont au-dessus, et encore plus quand tout est dérégulé, comme le souhaitent les gens qui nous sont au-dessus, et qu'il n'y a plus trop de garde-fous économiques comme ça a été bien arrangé, et voilà, je n'en parle pas. Parce que bah dans ce cas-là, enfin voilà, tout est trop cher. Voilà. Pour la périodicité, bah, un numéro par mois, c'est très bien. Non, ce qui change, c'est les séries qu'on y retrouve. Fini les Avengers de Jason Aaron qui m'ont jamais vraiment emballé, à part éventuellement quelques arcs avec des vampires. Non, ici, c'est les Avengers de Jed McKay. Et laissez-moi vous dire que le changement est bienvenu. On a aussi la série All Out Avengers de Derek Landis et Greg Land, où en fait, on voit des Carol Danvers maléfiques qui attaquent ses poteaux vengeurs, voilà. Et voilà, où en fait, du coup, c'est des petites histoires d'Avengers un peu qui vont avoir lieu, en fait, en un seul numéro à chaque fois. Donc, bah, c'est toujours intéressant à voir. Et on a aussi les parties les plus sympas du run de Spider-Man actuel, hein, qui commence avec le retour du Docteur Octopus et tout ça. On a ici donc le titre Iron Man de Degan et Frigeri qui continue, et il est sympathique, hein, avec un Tony Stark qui a perdu le contrôle de sa boîte et qui doit s'infiltrer dans ses propres hangars pour trouver ce que fabrique le méchant qui lui a piqué sa boîte. Et on a même des à côté, comme un Free Comic Book Day et le retour plus ou moins annoncé de Nick Fury, assez absent des titres Marvel depuis quelques années, et je m'en plaignais déjà dans mon top 42 des héros Marvel qui date déjà lui aussi d'il y a quelques années. Avec un tel sommaire, je pense que cette offre mérite le coup d'œil, et sans doute encore plus avec ce qui est annoncé pour la suite, comme par exemple l'arrivée prochaine d'Immortal Thor d'Ali Wing, qui est déjà un petit titre pépite en fait pour moi, qui le lit VO. Bref, le kiosque est mort, vive le kiosque, surtout quand on y trouve des bonnes séries. Et même si le titre de numéro 1 se retrouve avec un 2 en chiffres romains, me fait doucement sourire et grincer un peu des dents sur la facilité de se retrouver dans la Galaxy Comics, hein, j'en ai rigolé avec la vendeuse chez qui je l'ai acheté, force est de constater que ce qui importe le plus, la qualité de l'intérieur du magazine, est au rendez-vous. Donc, on en parle ici. Planétary tome 1, version poche, chez Urban Comics. Bon, depuis quelque temps déjà, l'éditeur Urban Comics a une politique de création de formats de poche qui réédite eh bien, ses plus grands succès. Et forcément, dans ces grands succès, bah, y a beaucoup, beaucoup de titres trop bien qu'il faut les lire quand même. Et comme chaque mois, où on a donc des vagues de ces titres qui sont donc appelés nomades, je suis bien embêté parce que je dois faire des choix drastiques entre des super œuvres. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait la pub, qui décidément passe toutes tes barrières mentales et te colonise le cerveau comme le ver d'oreille qu'il peut être. Et commençons par un choix simple. Planétary. Planétary, c'est un titre Wildstorm, scénarisé par Warren Ellis, auteur entre autres de The Authority, Transmétropolitan, Jack Cross, Moon Knight, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et le pitch est diablement alléchant. Puisque l'équipe elle-même s'appelle « Les archéologues de l'impossible ». En effet, nous allons suivre plusieurs personnages hauts en couleur, comme Elijah Snow, un amnésique, Jakita Wagner, une femme à la superpuissance qui est allergique à l'ennui, ou encore The Drummer, qui peut communiquer avec les systèmes électroniques et les contrôler à l'aide de sa baguette. La baguette pour une batterie, hein, pas la baguette de pain. C'est pour ça qu'il s'appelle The Drummer. Et... bref, je sens que je m'enfonce. On passe à autre chose. Ensemble, ils ont été convoqués par un groupe mystérieux nommé The Planetary, ça tombe bien, c'est le titre, qui les envoie en tant qu'agents de terrain, et ils vont aller enquêter sur l'histoire secrète de notre monde. Et désolé pour les auditeurs qui seraient amateurs de conspiration par histoire secrète, on parle pas ici de complot de chemtrails dans les airs, de francs-maçons ou des ondes utilisées pour contrôler nos esprits, mais plutôt de différentes histoires fictionnelles, que ce soit l'île Zéro près du Japon, qui a servi de laboratoire pour des monstres radioactifs géants, de découvrir une sorte d'avatar de Doc Savage nommé Axel Brass, ou encore une moquerie gentille de John Constantine en la personne de Jack Carter. Et tout ça en ayant une rivalité avec une autre équipe d'explorateurs composée de 4 personnes qui sont allées dans l'espace et ont été exposées à des sortes de rayons cosmiques. Je me demande bien qui pourrait représenter ce groupe de 4 personnes qui ont l'air assez fantastiques. Bref, Planetary est à mon sens un formidable titre pour explorer l'histoire de la culture populaire et fantastique. Et déjà rien que ça, ça en ferait un titre formidable dont j'aurais déjà parlé ici. Mais en plus, bien sûr, on a aussi progressivement une intrigue au long cours plus personnelle qui se met en place, du genre « Mais qui est le mystérieux quatrième homme de Planetary ? Quel est le but du groupe des quatre ?» Ce qui se cache derrière l'amnésie d'Elijah Snow, et elle est également très prenante, hein, cette intrigue, et bah, ça fait que du positif, en fait. En plus, c'est Judd Cassaday au dessin, un immense dessinateur, et dont Planetary est à mon sens un de ses meilleurs travaux. Et pour un monsieur qui a également fait Astonishing X-Men de Joss Whedon, le Star Wars de Jason Aaron et le Captain America de John Reber, bah c'est dire que c'est un travail quand même foutrement qualitatif. Bref, lisez Planetary, c'est l'œuvre de Wildstorm que je préfère tout court. The Crow, Skinning the Walls, chez Vestron. Alors, The Crow, c'est une série singulière hein, du petit monde des comics. Créée par l'auteur James Hobart, dans un moment très délicat de sa vie, où il venait de perdre l'amour de sa vie dans les années 80, c'est une œuvre en général très dure et très crue, où un corbeau mystérieux redonne vie à des personnes injustement tuées afin de leur donner une nouvelle chance de venger leur mort et donc de se venger. The Crow est sorti du cadre des comics et a gagné une plus grande popularité via le film des années 90 d'Alex Proyas. Une popularité qui fait sans doute que The Crow existe toujours de nos jours, même si l'auteur James Hobart a laissé de côté son œuvre reprise par d'autres, qui mettaient petit à petit leur grain de sel personnel dans un contexte, le corbeau mystérieux, qui permet à chacun finalement d'exprimer sa sensibilité et peut-être les histoires les plus sombres se cachant à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en 2013, James Hobart est revenu sur sa création pour les trois numéros qui sont regroupés ici, qui nous emmènent dans l'un des pires moments de l'histoire collective de l'humanité, un camp de concentration en 1945. Youpi ! Ça va encore respirer la joie et la bonne humeur cette affaire-là. James Hobart revient donc à la barre. Hobart, vous l'avez ? Oui, bah, désolé, hein, quand on parle de camp de concentration, je trouve l'atmosphère tendue, du coup, je veux mettre un peu de fantaisie. Bref, James Hobart revient à la barre, mais pas au dessin, qui revient pour le coup à son co-scénariste, Jim Terry, qui fait un très bon job graphique, hein, dans le style très cru de la série. Néanmoins, et je trouve ça très intéressant, c'est Hobart qui assure quand même le découpage de chacune des pages, découpage qui est extrêmement bien réalisé. Bref, faisons le pitch. Dans un train qui décharge sa cargaison humaine vers les fameux camps allemands, se trouve aussi quelqu'un de déjà mort qui vient chercher vengeance auprès du commandant du camp. Étant déjà mort et uniquement motivé par la vengeance, on a ici une représentation d'un surhomme qui subit tout un tas d'attaques et qui abat par dizaines les officiers de l'amicale du Vert de Gris aux idées courtes. Et en cela, le récit est un peu conventionnel, c'est vrai. Un récit de vengeance effectué par un personnage surnaturel et se rapprochant un petit peu d'un golem vengeur, puisque oui, forcément, le personnage était juif à la base, hein, c'est un peu le principe des camps de concentration. Voilà. Nous découvrirons par flashback comment le personnage a été tué la première fois, et notez que je dis « le personnage », car ici nous n'avons pas vraiment de noms qui sont donnés aux différents protagonistes, on a plus souvent des fonctions. Le commandant, l'historien, etc., etc. Mais j'ai été bien marqué par la relation assez perverse entre les deux hommes, par la mention du Götterdämmerung, soit le crépuscule des dieux, dernier acte de l'opéra de Richard Wagner, de l'Anneau des Nibelungen, et tant que j'en suis à étaler ma culture comme de la confiture sur une tartine trop grande, ici la fin marque un léger changement dans la mythologie de la série The Crow, où notre personnage ne redevient pas un mort après avoir effectué sa vengeance, mais semble au contraire invité par le corbeau à attaquer les autres camps et à libérer ses prisonniers. Ce qui me semble être une référence faite à la figure mythique du juif errant, personnage immortel qui erre de par le monde, et le fait que le personnage ne soit pas nommé ne fait que me conforter dans cette idée. Bref, c'est un récit plutôt simple mais que j'ai trouvé très très efficace et qui sait s'habiller de tout un décorum pour amplifier son idée simple, et qui a un découpage que je trouve ciselé aux petits oignons, et bref, bah, il me fallait en parler ici. X-Factor par Peter David, Omnibus tome 1, chez Panini Comics. Alors je vais être parfaitement franc, j'ai très longuement hésité sur le troisième titre Marvel que j'allais mettre en avant dans cette sélection de titres sortis en français. J'aurais largement pu parler du troisième tome de She-Hulk, de Rainbow Rowell, une autrice dont j'avais déjà adoré sa reprise des Runaways, et qui a fait du titre She-Hulk un titre de tranche de vie romantique avec des passages de super-héros qui viennent compliquer les dites tranches de vie. Un titre que j'aime beaucoup, mais dont je suis moins fan du trait sur ce tome 3, et comme j'hésitais, ben, j'ai choisi l'autre titre. Un omnibus gigantesque de 848 pages, reprenant l'intégralité du premier run de Peter David sur le titre X-Factor, un titre des années 90 qui voyait l'équipe cousine des X-Men devenir une équipe officiellement sous l'égide du gouvernement des États-Unis et qui travaille pour le Pentagone en tant qu'équipe mutante salariée. Et bon, bah, vous imaginez que, bah, forcément, une équipe de super-héros sous l'égide du gouvernement, ça a fait des frictions, et encore plus quand il s'agit de mutants. Et ce, malgré la présence d'une agente de liaison qui s'appelle Valérie Cooper et qu'on aime bien. Voilà, parce que c'est un personnage assez sympa. Malgré ça, les frictions sont quand même là. Mais je trouve que ce qui marche le mieux, c'est le casting, en fait. L'équipe est assez variée et ne possède qu'assez peu des mutants les plus connus. Je veux dire, les plus connus qu'on retrouve dans le titre, c'est sans doute Havok, le frère de Cyclope, et Quicksilver, le frère de la sorcière rouge, Vif Argent, si vous préférez en français. À côté d'eux, on retrouve Polaris, la fille de Magneto, Madrox, l'homme multiple, Strong Guy, hein, qui se traduit littéralement par l'homme fort, je pense que son pouvoir est assez évident, et Wolfsbane, la mutante loup-garou des anciens New Mutants. Alors, le titre est certes un peu brouillon, hein, comme beaucoup de titres dans la deuxième partie des années 90 et le début des années 2000, mais il y a des épisodes proprement marquants, comme l'épisode où l'ensemble de l'équipe passe devant un psychiatre connu aux cheveux verts et qui est très très dense émotionnellement. Mais le ton global du run, c'est plutôt quand même à la comédie. Il est très très bon dans ce domaine. En tout cas, il est très très bon quand il n'est pas sans cesse interrompu par les éditeurs de l'époque qui forcent le titre dans tous les crossovers mutants qui passent. Et croyez-moi, dans les années 90, les crossovers mutants, c'est pas ça qui manque. Malgré cet écueil, alors qui reste un écueil assez grave, hein, puisque c'est carrément ça qui a conduit au départ du scénariste, hein, Peter David, de façon précipitée, on est ici sur un titre qui est de qualité. Surtout au vu des autres titres mutants de l'époque. Et surtout, le point fort, c'est d'avoir une voix et une âme à chacun des personnages souvent délaissés de l'univers mutant, et ça, bah, moi j'adore, en fait. Donner sa chance à l'Underdog, c'est kiffant à lire. Et puis, Peter David reviendra sans doute sur X-Factor, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. J'espère. Non, parce que Panini, j'ai vraiment envie de parler de la deuxième fois. Voilà. À bon entendeur. Ah, et là aussi, pour le titre Joker, je m'arrache les cheveux pour savoir commettre. Ce qui, au vu du fait que je ne rajeunis pas et que je commence à bien les perdre, ma tignasse, c'est sans doute pas la meilleure idée du monde, mais bref, passons. Parce que j'ai déjà parlé de la collection Nomade, qui ressortait le best de ce qu'a sorti Urban Comics, et notamment beaucoup de titres d'essai, et il faut que je choisisse. Et il me reste 3 titres d'essai cool, mais une seule place. Donc déjà, désolé, Super Sons, où le fils de Superman et le fils de Batman vivent des aventures et deviennent copains, je t'aime bien, mais il y a mieux. Et puis, désolé, The Dark Knight Returns. Ça me fait vraiment mal de te laisser de côté, t'es un des classiques des années 80. Certaines de tes phrases sont ancrées en moi, comme « Ceci est l'arme de l'ennemi, nous ne l'utiliserons pas ». Mais j'ai préféré mettre en avant Mr. Miracle de Tom King. Déjà parce que, je vous l'avoue, j'apprécie les Néo-Dieux, une création de Jack Kirby dans les années 70, qui a créé deux planètes peuplées de dieux se battant l'un contre l'autre, l'une angélique, nommée New Genesis, et une planète maléfique, nommée Apocalypse. Mais Jack Kirby a laissé sa création à DC, et il y a peu de titres, que j'estime être à la hauteur du talent de Kirby, dans cette saga appelée du Quatrième Monde. Parce que oui, il y a eu pas mal de titres qui ont continué dans ce qu'avait lancé Kirby. Mr. Miracle de Tom King fait, à mon sens, partie de ces quelques titres que je peux mettre vraiment dans la continuité de Jack Kirby, c'est-à-dire le King of Comics. Voilà. C'est son apport au monde des comics, c'est incroyable, et voilà. C'est sans doute son œuvre la plus personnelle, les New Gods. Mr. Miracle, c'est Scott Free, le fils du dirigeant de New Genesis, c'est les dieux gentils, hein, pour résumer, qui a été élevé, lui, sur la planète des méchants. Parce qu'en fait, il y a eu un échange de fils afin de consolider une paix fragile entre les deux planètes. Et le petit gentil, il a été élevé dans l'enfer des puits de feu et dans la cité sombre de l'Armaghetto, sans cesse corrigé par Granny Goodness, hein, la fameuse Mabby Bonheur déjà citée dans cette émission. Bref, il est devenu très très doué dans le fait de se sortir des situations les plus compliquées. Bref, de devenir un maître de l'évasion. Il s'est évadé bien plus tard de la planète avec Big Barda, une des élèves les plus prometteuses de la Force des Furies, de Granny Goodness, hein, toujours. Hein. Bref, les deux se sont réfugiés sur Terre, sont un couple heureux, font partie de temps en temps de la Ligue de Justice, et ça, c'est un peu le statu quo des personnages. Et c'est un peu comme ça qu'on les récupère dans cette série. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Peut-on réellement échapper à ce genre de vie sans problème ? Surtout quand, apparemment, Darkseid, le mal ultime, et donc qui dirige Apocalypse, a trouvé l'équation de l'antivie et peut d'ores et déjà changer l'esprit des hommes à volonté. Surtout quand Scott Free, le maître de l'évasion, a commencé la série en tentant de se suicider. La vie est-elle la seule chose dont Scott ne puisse s'échapper ? Veut-il s'en échapper ? A-t-il peur de son futur ? De construire quelque chose de durable ? Ça, c'est la partie accessible à tout le monde au niveau des connaissances du titre. Le scénario de Tom King étant une petite merveille d'accessibilité malgré la complexité du Quatrième Monde. Il y a des couches supplémentaires hein, pour le connoisseur rempli de sous-entendus sur la relation entre Jack Kirby et Stan Lee, des sous-entendus déjà présents hein, quand Kirby scénarisait le titre. Hein, voilà, ça sort pas de nulle part. Hein. Il y a aussi une autre couche, si par exemple on connaît la série Orion de Walter Simonson et la propre relation de ce personnage-là avec l'équation d'Antivie, qui font du récit un titre que l'on peut relire de nombreuses fois avec une richesse thématique et aussi une virtuosité du dessin de Mitch Gerards, qui est extraordinaire et nous font rentrer, parfois au chausse-pied, parfois avec finesse, dans la tête de Scott Free, dieu qui voudrait peut-être être humain, ou l'inverse, qui sait. Bref. Mr. Miracle, sans hésiter, mais avec regret pour les autres. Bon, comme il était déjà d'usage dans la version vidéo, il y a parfois une 11e petite chronique, qui ce coup-ci nous vient d'un titre VO, c'est-à-dire un titre qui vient tout juste de sortir au pays de l'oncle Sam, et malheureusement, c'est pas Sam Sagas Gamgee. Et comme on est dans un podcast, et qu'on est plutôt dans les derniers moments, je me sens un peu plus relax pour vous dire que c'est le reliquat en fait, de très vieilles émissions, genre 8 ou 9 ans en arrière. J'avais commencé, en fait, dans les premiers temps de mon activité sur Internet, en tout cas, mon activité sur Internet ou liée aux comics, à faire une émission vidéo qui s'appelait Comics Actu, où on trouvait des sections comme l'Animinute, qui revenait sur les adaptations en tout genre, les news comics papier, tout ça. Et je finissais par un segment appelé Flash Critique, qui mélangeait un peu mes lectures VO et VF. C'était des petites critiques, mais vraiment très très courtes, voilà, qui donnaient un petit peu mon avis, enfin voilà. Au bout de quelques années, et devant le nombre croissant de polémiques totalement infondées qui étaient mises en avant dans le discours comics, j'ai abandonné peu à peu l'émission Comics Actu, surtout qu'en plus il y avait le commis des comics en fait qui tenait bien la barre, Alors, je trouvais qu'au niveau de ce qu'on apportait, on avait des approches complémentaires sur notre façon de traiter l'actu, mais bah, l'actu, justement, me fatiguait au plus haut point. Mais comme j'aimais beaucoup faire Flash Critique, je l'avais sorti de Comics Actu pour en faire sa propre émission à part. Alors, mensuel déjà, mais toujours sans aucune règle, hein, juste ce que j'avais lu et dont j'avais quelque chose à dire. Et sans règle, je sentais que quelque chose manquait, ce qui fait que bah, seulement quelques épisodes existent. Ils sont toujours sur la chaîne. En plus, à l'époque, je commençais vraiment à travailler, et mon temps était plus compté, et j'ai un peu laissé de côté Flash Critique. J'ai essayé plusieurs fois de m'y remettre, j'ai des exemples de vignettes faites à l'époque, je vous les mettrai sur les réseaux sociaux, et sur le texte Substack qui accompagne l'épisode podcast que vous écoutez actuellement. Tiens, je vous mettrai même les textes qui me restent. Voilà, ça mange pas de pain, puis ce sera, j'aurai l'impression que c'est pas tout à fait perdu. Mais voilà, ça manquait de lien, de consistance. Je crois qu'il me fallait des règles. Et à ce moment-là, j'avais un concept qui marchait bien en vidéo et avec un concept et des règles claires. 10 comics qui présentaient 10 bons comics d'une décennie passée. J'ai donc adapté les règles pour les sorties VF et ça a donné l'émission vidéo, puis podcast, que vous êtes actuellement en train d'écouter. Mais je suis également un lecteur VO et Flash Critique est toujours dans un coin de ma tête. Il existe donc parfois un 11e comics, un comics VO, reliquat de ses expériences passées. Mais il me fallait des règles, parce que sinon je parlerais toujours de mes titres doudous, en fait. Comme on est dans l'idée de découverte et de mise en avant, je me suis limité uniquement à des numéros 1. Et les mois où j'ai pas lu de numéro 1 qui m'ont tapé dans l'œil, bah y a juste pas de VO. C'est en même temps très simple et suffisamment cadré pour que ça me convienne. Et là, c'est le moment où je dois vous dire que de quoi je parle en fait ce mois-ci. Le truc, c'est que j'hésitais entre deux titres, tous les deux des numéro 1 chez Marvel. Et il y en a un dont on va sans doute beaucoup vous parler. C'est la relance d'Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman et Marco Cecchetto. C'est un très très bon premier numéro. Je vous conseille d'ailleurs, il y a une vidéo qu'a fait l'ami vidéaste Beaumasque sur sa chaîne Accès Comics. Voilà, si jamais vous voulez entendre plus comme ça, il y a au moins ça, et puis en plus je fais de la pub pour un copain. Mais je dois avouer que j'ai été encore plus surpris par la qualité du premier numéro d'Avengers 2. Twilight. Le premier numéro d'une mini-série de 6 numéros prévus. Cette mini-série, scénarisée par Chip Zdarsky, et ancré, dessiné et colorisé par Daniel Acuna, nous présente un futur dystopique où nos héros ont bien vieilli, hein, d'où le Twilight, hein, crépuscule du titre. On va éviter les mauvaises blagues à place de romances vampiriques, hein, tant qu'à faire. Dans ce futur, on suit principalement un vieux Captain America qui, comme beaucoup de ses copains héros, a raccroché le masque suite à une catastrophe nommée le H-Day, où apparemment ça a merdé, mais merdé grave. Mais on n'a pas tous les détails, hein. On en sait plus au fil du temps et des numéros. Hein, on sait juste que ça concerne une union de super-vilains augmentée par Ultron. Alors, tout a l'air d'aller plutôt bien dans ce futur. Jusqu'à ce que ça commence à faire un reportage à la télé qui cherchait à réhabiliter Crâne Rouge, le vilain membre de l'amicale des leveurs de bras de l'amateur de petites moustaches. Ça va pousser Captain America à répondre à la télé. À un membre de la nouvelle génération de héros, Jimmy, le nouvel Iron Man, fils de Tony Stark et Janet Van Dyne, alias la Guêpe. C'est là que ça commence à nous sortir du gros confusionnisme, voilà, comme on peut connaître encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, à base de « bon, il n'y a aucune différence entre les héros et les vilains », voilà, de statu quo créé par les médias, tout ça. Et en sortant du studio, il y a des rappels du moment où Spider-Man est mort, enfin bref, Captain fait presque une attaque. Et là, il y a des policiers assez peu engageants qui sont là pour faire respecter le couvre-feu et qui attaquent les jeunes qui font du skate de façon un peu disproportionnée. Alors, pas les jeunes qui font du skate, hein. Le fait qu'ils se fassent attaquer à coup de... ça a l'air d'être des grosses matraques électriques, hein. Bref, Captain les défend, se fait récupérer par la Résistance, à savoir une équipe qui se nomme les Defenders, lancée par le vieux Luke Cage, tandis que l'on voit Jimmy de son côté parler à son nouveau majordome nommé Jarvis, qui semble avoir beaucoup d'influence sur lui, et parler à ce qui reste de son père. Et quand je dis ce qui reste, J'ai pas envie de spoiler, mais il en reste pas beaucoup. Et c'est vachement bien. C'est un mélange entre Kingdom Come et The Dark Knight Returns dans les thématiques, et même carrément des citations directes de Kaz. Hein. Vous regarderez quand Captain a une petite attaque exactement la même au début de Dark Knight Returns. Les dessins d'Aikuna sont extraordinaires, notamment la colorisation, et ce numéro 1 raconte beaucoup plus de choses que le numéro de mise en place d'Ultimate Spider-Man. Et je suis tout simplement plus intéressé pour le moment par cette série, qui m'a l'air en fait très intéressante et beaucoup plus courte et donc beaucoup plus dense. Là où Ultimate Spider-Man, ce sera clairement une série à lire au long cours, et normalement c'est là qu'on devrait avoir la substantifique moelle. Voilà. Et en plus, dans Avengers Twilight, les gentils, ils ont l'air un peu chelous aussi. Parce que par exemple, t'as les pouvoirs qui commencent à avoir de la dégénérescence, en fait. Par exemple, Cap, il n'a plus de sens de super soldat. La peau supradense, en fait, de Luke Cage fait qu'en fait, il peut plus bouger, en fait. Il est obligé d'avoir un fauteuil handicapé spécial parce qu'en fait, du coup, ses muscles, en fait, peuvent plus porter, en fait, sa peau. Bref, c'est beaucoup de points qui font que je vous recommande cette série. Vraiment. Et voilà, c'est la fin de cette version podcast de D-Comics. C'est une version un peu plus relaxe pour moi à faire, et je l'espère au moins tout aussi cosy pour vous à écouter. N'hésitez pas à tout simplement mettre des petits pouces, des petits trucs, des étoiles, parce que c'est beaucoup qu'on trouve ça sur les agrégateurs de podcasts. Même si bon, voilà, il y a tellement d'agrégateurs de podcasts aujourd'hui que mettez juste un petit truc, un petit mot gentil. Ça nous aide en fait à nous faire connaître et à faire que le podcast soit en fait tout simplement présenté aux gens. Voilà, donc c'est un petit peu important. Pas que je sois quelqu'un qui a envie d'avoir des chiffres de ouf, mais en fait, j'aimerais bien juste que les gens aient l'occasion de choisir ou non d'appuyer sur le truc. Donc j'aime bien au moins juste apparaître devant les gens et après c'est les gens qui choisissent. Et là, ça me semble être la chose la plus logique au monde. Voilà. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le Discord de SN Parod, donc qui sera tout simplement dans la description du podcast et également dans le texte Substack, parce que je vais mettre en fait le texte de l'émission et pas mal de petites choses qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, vous aurez. Voilà, par exemple, pour ceux qui n'ont que la version audio, parce qu'il va y avoir une version vidéo qui va être sur la chaîne bonus, la Parod Cave, qui va se trouver. Donc, pour ceux qui, par exemple, n'ont que la version audio, vous pouvez aller sur Substack, et vous allez voir, en fait, vous allez avoir le texte, en fait, de chacune des chroniques, en fait, avec, bien sûr, la couverture, ce genre de petits détails. Et donc, bien sûr, les petites choses en plus, les fois où je me dis, c'est bien de rajouter des petites choses en plus. Voilà. Quant à moi, je suis déjà en train de faire la version de février, la sélection est faite. J'ai déjà écrit 2 chroniques au moment où j'enregistre. Donc, on se revoit bientôt sur ce D-Comics mensuel. Nouvelle formule, uniquement audio, et on dirait que je fais de la pub pour la lessive. Mais qu'est-ce que tu fais, Parod ? Reprends-toi ! Allez, à plus.